RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Sébastien Duhamel.
Et on débutera avec le nouveau gouvernement du Gabon, nommé hier par Brice Clotaire-Oligui Nguema, fraîchement investi à la présidence. Et si le Rwanda accueillait des migrants expulsés par les États-Unis ? L'idée avait déjà été évoquée, puis abandonnée par la Grande-Bretagne. Elle est remise au goût du jour par des discussions entre Washington, cette fois, et Kigali. Un premier pas en faveur de la fin des tensions dans l'est de la RDC, la première pierre d'une paix difficile à bâtir. La RDC et le Rwanda ont finalement présenté hier à Washington un avant-projet d'accord, une ébauche qui restera affinée avec un comité de suivi qui réunit plusieurs chancelleries. On fera le point sur ce dossier ensemble. Alors que la guerre se poursuit au Soudan avec une nouvelle attaque de drone ce matin à Port-Soudan, le gouvernement soudanais ne verra pas de suite à sa plainte déposée contre les Émirats Arabes Unis pour complicité de génocide. Les juges de la Cour internationale de La Haye se sont déclarés incompétents hier. Et puis des manifestations à Luxembourg où se tient l'Assemblée générale cette semaine du sidérurgiste ArcelorMittal. L'occasion pour les défenseurs de l'environnement de pointer les activités polluantes du géant. Deux jours après avoir prêté serment à Libreville, le nouveau président gabonais Brice Clotaire-Oligui Nguema a donc constitué sa nouvelle équipe gouvernementale. Une équipe dépourvue de Premier ministre, car la nouvelle constitution adoptée pendant la transition a supprimé ce poste. Elle a fait entrer le Gabon dans sa 5e République et elle prévoit en revanche cette nouvelle constitution un vice-président du gouvernement. La fonction revient donc à Alexandre Barrault-Chambrier. Tour d'horizon de ce nouveau gouvernement à Libreville avec Yves Laurent Goma.
Brice Clotaire-Oligui Nguema a formé un gouvernement resserré, essentiellement composé de technocrates. 30 membres contre 35 dans l'équipe précédente. L'argentier de l'équipe est Henri-Claude Ohima, PDG du groupe bancaire panafricain BGFI Bank. Il obtient le ministère de l'économie, des finances, de la dette et de la lutte contre la vie chère. Sa mission, maximiser la collecte des recettes publiques et discipliner les dépenses de l'État. Bras droit du président durant le coup d'État qui a balayé le régime d'Ali Bongo, le colonel Ulrich Mafumbi Mafumbi devient ministre d'État chargé des transports. Les hommes du chef de l'État restent à des postes clés. Pas de changement à la défense, à l'intérieur et aux affaires étrangères. Il a cependant confié le très convoité ministère du pétrole à Sosten Nguema Nguema, un jeune technocrate. Brice Clotaire-Oligui Nguema a remercié plusieurs cadres de l'ancienne équipe. C'est le cas de Charles Mba qui était au budget, Muriel Minkwe à la réforme des institutions et Flavien Zengenzundu, son ancien mentor à la garde républicaine. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
Et notons avant de quitter le Gabon que Brice Clotaire-Oligui Nguema a également nommé hier un vice-président de la République en la personne de Séraphin Mundunga. L'idée avait provoqué beaucoup de réactions chez les défenseurs des droits de l'homme. Renvoyer des migrants présents illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Idée finalement abandonnée par le gouvernement britannique, mais ravivée aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique, manifestement par les États-Unis. À en croire en tout cas le chef de la diplomatie rwandaise, des discussions seraient en effet ouvertes sur ce point avec Washington, à l'heure où l'administration Trump souhaite justement accélérer les expulsions. À Kigali, correspondance de Lucie Mouillot.
Devant la télévision nationale, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndungirehe, confirme pour la première fois la tenue de discussions bilatérales avec les États-Unis sur un potentiel accord migratoire. Des échanges en cours, toujours à un stade préliminaire, a-t-il indiqué, sans donner plus de détails sur le contenu des discussions. Un tel accord n'est pas nouveau pour le Rwanda, a ajouté le chef de la diplomatie, évoquant notamment le projet controversé signé en 2022 avec le Royaume-Uni, finalement abandonné avant son implémentation l'année dernière par le nouveau gouvernement britannique. Les autorités de Kigali avaient à l'époque affirmé rester engagées sur les questions migratoires et ouvertes à des discussions similaires avec d'autres pays. Début avril, le Rwanda était déjà cité par des médias américains comme l'un des pays tiers envisagés par Washington pour y envoyer des migrants rejetés par l'administration. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Avec un petit peu de retard sur le calendrier annoncé, c'est fait. La RDC et le Rwanda ont donc présenté à Washington un premier jet d'accord vers la fin des tensions. Ce n'est évidemment qu'un premier jalon ici, sous l'égide de la diplomatie américaine, qui a d'ailleurs annoncé la mise en place d'un comité de suivi, un mécanisme censé accompagner Kinshasa et Kigali dans la mise en œuvre du processus de paix. Il réunit les États-Unis donc, mais aussi le Qatar, la France et le Togo au nom de l'Union africaine. Alors, quelles sont les prochaines étapes désormais ? Patient Ligaudy. Ce que l'on sait à ce stade, c'est qu'une nouvelle rencontre est envisagée d'ici à 3 semaines entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Mais ce rendez-vous n'a pour l'instant pas encore été officiellement arrêté. Washington, qui se félicite de cette avancée, continue de jouer un rôle moteur dans le processus. La réunion du 30 avril à Doha s'est d'ailleurs tenue à son initiative. En revanche, le comité de suivi annoncé le 1er mai par le conseiller spécial américain Massad Boulos reste à ce jour peu structuré. Aucune date de réunion n'a été communiquée et aucune feuille de route précise n'a été arrêtée selon nos informations. Par ailleurs, des incertitudes subsistent. D'un côté, la nouvelle organisation diplomatique américaine rend difficile l'identification claire des rôles et des responsabilités. De l'autre, certains partenaires expriment des réserves quant aux intentions de Washington, perçues comme trop orientées vers ses intérêts stratégiques. Les États-Unis ne s'en cachent d'ailleurs pas. La déclaration de principe signée le 25 avril permettra aussi de protéger les intérêts stratégiques américains dans le minerai critique, dit Washington. Et à ces stades, la France, le Qatar et le Togo attendent désormais que Washington clarifie les prochaines étapes, tant sur le plan du calendrier que sur la structure opérationnelle du comité.
Pas sur Ligodi, la RDC, où le président Tshisekedi veut plus de rationalité budgétaire. Lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a une nouvelle fois demandé à son gouvernement de lancer un processus d'identification, je cite, des institutions dont la pertinence n'est plus avérée mais qui continuent de mobiliser des ressources publiques importantes, fin de citation. Concrètement, l'objectif ici, c'est de financer l'effort de guerre, mais quelles sont ces structures dont parle le président Tshisekedi? On voit ça avec Pauline Azidi.
Le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL, organisation de la société civile qui alerte notamment sur les dérives budgétaires, demande depuis plusieurs années ce nettoyage dans les structures étatiques. Selon son coordonnateur national, Valérie Madianga, plus d'une cinquantaine de ces structures seraient problématiques. Elles se situent au niveau des institutions, ministères, présidences ou encore parlement. D'après lui, certaines viennent en doublon, d'autres agences, d'autres n'ont même plus de raison d'exister.
Je donne le cas du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral qu'on a créé en 2007-2017. Aujourd'hui, cette institution publique n'a plus sa raison d'être parce qu'elle consomme en moyenne chaque année 2 millions de dollars qu'on pourrait affecter, par exemple, à la construction des laboratoires médicaux au niveau des provinces. Si vous les mettez sur l'espace des 10 ans, imaginez ce qu'on peut allouer au niveau des services trop pauvres.
Mais pour le CREFEDEL, il faut aller plus loin et s'intéresser aussi aux lignes budgétaires des différentes institutions étatiques. Dans ce sens, l'organisation de la société civile a adressé en février une lettre à la première ministre avec des pistes pour réduire le train de vie de l'État de près $1 milliard.
Pauline Azidi, le trafic aérien interrompu ce matin à l'aéroport international de Port-Soudan, la capitale provisoire du Soudan où le gouvernement a été délocalisé au début de la guerre contre les forces de soutien rapide des FSR qui ont justement ciblé la ville avec une nouvelle attaque de drone ce matin, la troisième en l'espace de 3 jours. Alors que depuis le début de la guerre, il y a plus de 2 ans maintenant, cette ville avait été jusqu'ici épargnée. Le Soudan qui se voit d'ailleurs débouté par la Cour internationale de justice. Le gouvernement soudanais avait porté plainte contre les Émirats arabes unis, les accusant de participer à un génocide contre les populations massalites du Darfour en soutenant directement les forces de soutien rapide du général Hemeti. Mais hier à La Haye, les juges ont finalement estimé que la Cour internationale de justice n'est pas compétente pour entendre cette affaire. Compte rendu.
La décision de la Cour ne dédouane pas les Émirats de leur responsabilité dans le conflit en cours au Soudan. C'est une réponse technique que les juges ont rendue légalement. Ils ne sont pas compétents pour examiner le fond de l'affaire. Pour comprendre, il faut savoir qu'en ratifiant la Convention sur la prévention et la répression du génocide en novembre 2005, les Émirats arabes unis avaient indiqué qu'en cas de différend avec un autre État, ils refusaient d'avance la compétence de cette Cour, des réserves classiques que peuvent émettre les États lorsqu'ils décident d'adhérer à un traité. Sur le fond, Khartoum accusait les forces de soutien rapide de commettre un génocide contre les Massalites au Darfour et accusait donc les Émirats de complicité pour leur soutien à la milice du général Hemeti. La CIJ ne se prononcera donc pas sur cette question et pendant ce temps, la guerre continue au Soudan. Stéphanie Maupas, La Haye. RFI.
Et c'est évidemment Stéphanie Maupa que nous avons retrouvée à La Haye, bien sûr. Les regards se tourneront bientôt vers les cheminées du Vatican. C'est demain en effet que débutera le conclave censé élire le successeur du pape François qui nous a quittés le lundi de Pâques à l'âge de 88 ans. Et sur RFI, on vous a présenté ce matin un des cardinaux qui va voter, le centrafricain Dieudonné Nzapalanga. Portrait à retrouver sur notre site internet. C'est le deuxième groupe de sidérurgie au monde. ArcelorMittal tient son assemblée générale en ce moment à Luxembourg. Et pour l'occasion, quelques militants de pays en développement ont fait le déplacement. Ils dénoncent l'impact des activités du groupe, pollution, émissions de gaz à effet de serre, atteinte aux droits des populations. Des militants qui demandent des comptes à l'entreprise et aux banques finançant les projets. Jeanne Richard.
Des cheminées de l'acierie d'ArcelorMittal à Vanderbilt Park, près de Johannesburg, s'échappent toutes sortes de gaz polluants et dangereux pour la santé, explique Mdoudouzi Chabalala, militant environnemental local.
Ils émettent différentes particules, des métaux lourds, du dioxyde de soufre et des oxydes d'azote. Du coup, les gens vivent avec des maladies respiratoires.
Le sol et l'eau sont aussi atteints.
La pollution est toujours présente sur le terrain. Il y a quelque temps, des vaches sont mortes juste après avoir bu l'eau de la rivière. De l'eau qui venait des installations d'ArcelorMittal. Et les agriculteurs parlent d'animaux qui ne se développent pas normalement.
Et malgré un plan de modernisation des installations et de décarbonation annoncé en 2019, bien peu de travaux ont été réalisés, estime-t-il. Aujourd'hui, il demande à l'entreprise de réparer ses torts.
Ils devraient utiliser des technologies bas carbone et réhabiliter l'environnement affecté depuis de nombreuses années. On espère aussi qu'ils vont maintenir l'emploi avec des postes consacrés à la transition.
ArcelorMittal a annoncé entre 4,5 et 5 milliards de dollars pour ses projets de décarbonation en 2025, mais sans préciser dans quel pays. La crainte en Afrique du Sud, c'est d'être oublié par le géant de l'acier.
Les explications de Jeanne Richard du service environnement de RFI. Restez avec nous à l'écoute de la Radio du Monde. Notre matinale continue avec Andréane Mélard.